Wow, wow! Et si je pleure dans la pluie, tu n'y verras que du feu, de l'eau qui tombe sans bruit, que de la pluie dans mes yeux. Et si je pleure devant toi, ce sera mon dernier cri, mais tu ne l'entendras pas, qui peut voir des pleurs dans la pluie? Bonjour tout le monde et bienvenue à cette émission d'après-sprint du bulletin GP dans le cadre du sprint post-Grand Prix de Belgique. Mon nom est Abdoussal et merci de m'endurer après ces 20 secondes de pleurs dans la pluie de Mario Pelcha pour résumer en fait comment ce sprint du Grand Prix de Belgique s'est déroulé. Sous la pluie, avec du retard et une mini-course, on peut dire, relativement intéressante. Donc, je serai seul à l'animation. Heureusement, personne va me bâcher sur mes champs. Personne ne s'y attendait, d'ailleurs. Mais je vais vous donner, par contre, les résultats de ce sprint. Max Verstappen gagne, sans surprise, devant Oscar Piastri, deuxième. Pierre Gasly, troisième, Carlos Sainz quatrième, Charles Leclerc cinquième, Lando Norris sixième, Lewis Hamilton septième, mais en fait il a franchi la ligne en quatrième place, mais a une pénalité de 5 secondes pour avoir causé une collision avec Sergio Perez. Et huitième, George Russell, donc c'est le top 8 qui marque des points durant ce sprint. Et pour compléter le top 10, Esteban Ocon 9e et Daniel Ricciardo 10e. On a perdu Fernando Alonso et Sergio Perez lors de ce sprint qui a duré 11 tours à la place de 15 parce que, en fait, tout d'abord, le sprint a été retardé de 35 minutes. Le temps d'être en accord avec le délai de 4h30 entre les débuts de deux séances de Formule 1. Donc, dans ce cas-là, c'était le sprint shootout qui a été retardé de 35 minutes. Donc, le sprint a commencé à 17h05, heure locale, 11h05, heure du Québec. C'est ce qu'on croyait, en fait, mais c'est à 17h35, heure locale, ou 11h35, heure du Québec, que les pilotes ont pu rouler 4 tours derrière la voiture de sécurité pour 4 tours de formation. Et ensuite, ça a été 11 tours de sprint, donc 11 tours au total. Alors, Max Verstappen a gagné. Il n'y a rien là. Il a obtenu la pole du sprint par 11 millièmes devant Oscar Piastri. Mais disons que la course a été... la mini-course a été plutôt une question de à quel moment Verstappen allait reprendre le premier rang, puisque il s'est arrêté un tour plus tard que Oscar Piastri, qui lui est rentré lorsque le drapeau vert fut agité. Et ensuite, il y a eu la voiture de sécurité pour enlever la Aston Martin de Fernando Alonso. Joyeux anniversaire, Fernando, d'ailleurs. Pour ensuite, lorsque la voiture de sécurité est rentrée dans les puits, Verstappen a juste dépassé Piastri dans la droite du camel. Et ensuite, le reste, c'est de l'histoire, puisque Verstappen a gagné par 6 secondes. Ouais, 6,6 secondes. Quand même. Mais ça a été une belle performance pour Piastri tout au long du week-end. Et vraiment, la jeune recrue australienne montre pourquoi McLaren a fait le bon choix pour l'instant. Je dis pour l'instant, mais c'est un très bon choix depuis le départ. Et vraiment, il est en train de montrer que ce pilote est talentueux. Il est passé proche d'inscrire une première pole dans une séance compétitive, même si ce n'est pas pour un Grand Prix officiellement. Il a mené une course de Formule 1, peu importe la manière, pour la première fois de sa carrière. Alors, ça a été vraiment une excellente journée pour la part de Piastri. Et pour Verstappen, ben, ça a été une, on pourrait dire, a walk in the park. Donc, une, ou un stroll in the park. mais ça a été quand même une, ça a été quand même une belle course de la part de, des deux pilotes, entre autres. Quand même, il ne faut pas minimiser tout le travail que Verstappen fait. C'est absolument exceptionnel ce qu'il fait. Mais quand même, mention hyper, hyper, hyper honorable à Oscar Piastri qui a ben, fini deuxième. Je ne pense pas qu'il était dans le... Dans les pouvoirs réels de remporter le sprint, parce qu'on connaît à quel point Verstappen est rapide, mais c'est quand même des points accumulés de circonstances pour comment ça s'appelle, pour McLaren, parce que ajouter à ça ajouter à ça aussi la sixième place de Lando Norris qui marque 3 points. C'est quand même bien pour continuer leur progression dans le championnat des constructeurs. Évidemment, il reste la course du lendemain qui vaut beaucoup plus. Et c'est exactement ça dont l'écurie avait besoin, d'une performance solide pour compléter en fait tout le travail qu'ils ont fait avec les mises à jour, le développement de la voiture, de la McLaren, et ça fonctionne très bien. Et Piastri aussi a été capable de livrer la marchandise. Sinon, en arrière, il y a Pierre Gasly qui finit troisième. Gasly qui offre un moment de joie à Alpine parce que lors de la séance d'essais libres, on a eu la grosse bombe, en fait, comme quoi Otmar Szafnauer et Alan Powman, ainsi que Pat Fry, ont quitté Alpine, les deux premiers ayant été congédiés, en fait, tout simplement, et Fry qui a quitté pour aller chez Williams. Alors, ça a été vraiment un vendredi horrible pour Alpine. Et ça, évidemment, c'est la goutte qui a fait déborder le vase. En plus de ça, Alain Prost a taclé solidement Laurent Rossi dans le journal L'Équipe aussi, critiquant son travail, ses qualités de leader dans une écurie de Formule 1. Alors, et en plus de ça, ben Ocon, vendredi, qui a été éliminé en Q2 avec un aileron avant endommagé suite à une sortie de piste au virage 9. Mais heureusement, Gasly a été capable, surtout en s'arrêtant au puits, au bon moment, de se retrouver troisième. Alors, et en plus, il a résisté aux attaques de Lewis Hamilton, même si ce dernier aller de toute façon perdre sa position à l'arrivée pour reculer de 5 secondes suite à sa collision avec Sergio Perez. Alors, ça a été vraiment une belle course de la part de Gasly qui obtient du même coup son premier top 3 avec Alpine, même si ce n'est pas un podium officiel vu que ce n'est pas un Grand Prix, mais c'est un baume qu'on peut donner à Gasly. Derrière, il y a eu Lewis Hamilton qui a fini quatrième, mais a été pénalisé de 5 secondes pour avoir causé une collision avec Sergio Perez. Et ça, c'est, je pense, ça s'est passé à Malmedy ou non, je crois. Enfin, je me souviens plus, mais c'était avant Blanchimont. Et Perez a été énormément en difficulté et a même dû abandonner le sprint à cause des dommages engrangés sur la voiture suite au contact. Là, il y a un débat actuellement sur les réseaux sociaux, à savoir, est-ce que la pénalité de 5 secondes à Hamilton était justifiée ou elle était trop sévère? Moi, je pense que elle est relativement justifiée, mais elle est soft. Elle est soft parce que, oui, Hamilton pouvait le dépasser. Il avait l'avantage, il avait la meilleure ligne de course que Perez. Mais est-ce que c'était intentionnel? Non. C'est rarement intentionnel, ce genre d'incident. Mais je crois que c'était... J'aurais plus penché pour un incident de course, mais je comprends tout à fait aussi pourquoi la direction de course a donné 5 secondes à Hamilton. Je pense que avec la vitesse qu'il avait, je crois qu'Hamilton aurait bien pu dépasser Perez à l'arrêt d'autobus aussi. Mais il faut savoir trouver les points pour pouvoir passer son pilote, son adversaire, devrais-je dire. Mais ça a été un petit peu mal jugé de la part d'Hamilton. Donc, je comprends aussi pourquoi la FIA a donné une pénalité de 5 secondes sur le temps. Évidemment, en suivant les règles du dépassement de la établies par la FIA. Donc, mais entre-temps, dans la course, Hamilton a été correct. Évidemment, il s'est rapproché de Gasly, mais n'a jamais été capable de capitaliser ou de le dépasser. Je crois qu'il lui manquait de temps. Alors, on peut dire c'est ça qui est ça pour Hamilton. Donc, il passe de 4e à 7e. Sinon, pour les Ferrari, ça a été une bonne performance dans les circonstances, un peu en retrait. Mais ça s'est bien passé pour Carlos Sainz et Charles Leclerc. Leclerc va partir en pôle dimanche, étant donné que Max Verstappen, même s'il a été le plus rapide, a une pénalité de 5 places sur la grille pour changement de boîte de vitesse, son 5e alors que le total est de 4. Donc, c'est correct pour Ferrari. En espérant que dimanche, ça se passe bien. Lando Norris, lui, je m'attendais un petit peu mieux, mais c'est quand même des points importants que McLaren va chercher. George Russell, parce que j'ai parlé de Lewis Hamilton. George Russell, ça a été bien. Ça a été plutôt correct dans les circonstances. Et j'ai trouvé aussi que c'était un peu ordinaire aussi de sa part de bloquer Hamilton après avoir bloqué les roues en fin de la SQ3. Mais je pense qu'ils ont réglé le problème à l'interne. Daniel Ricciardo, qui, avec l'abandon de Checo, s'est retrouvé 8e avant d'être dépassé par Russell et Esteban Ocon, mais lui aussi a bien géré en fait le timing du changement de pneu full pluie à intermédiaire. C'est bien. Je pense que sa deuxième course et demie, ça va bien pour Ricardo. Il a été devant Tsunoda. Même si lors de la grande course demain, il va partir derrière son coéquipier. Ça, c'est parce que lors de la Q1, son tour a été supprimé, ce qui aurait été bon pour la 10e place. Mais Ricardo semble avoir le dessus sur Tsunoda présentement en fin de semaine. Et le sprint, il a bien fait dans les circonstances. Sinon, un des grands perdants de cette fin de semaine pour l'instant, c'est Aston Martin. Entre autres, Fernando Alonso, dont c'est l'anniversaire ce samedi. Joyeux anniversaire, Fernando. Qu'est-ce qu'il a eu comme cadeau au pluriel? Une élimination en SQ2 parce que Lance Stroll a accidenté sa voiture à la fin de cette période de qualification sprint, alors qu'Alonso n'avait pas effectué de chrono encore. Ensuite, lors du sprint, perd complètement le contrôle de sa voiture à Pouhon et se retrouve enlisé dans le bac à gravier, ce qui provoque l'intervention de la voiture de sécurité et en même temps le fait que Max Verstappen ait pu rattraper Oscar Piastri et le bouffer carrément. Ensuite, Alonso est présentement sous enquête auprès de la FIA pour conduite dangereuse potentielle. Alors, suite avec une bataille contre Nicole Kenberg dans les puits. Alors, Alonso est sous enquête pour conduite dangereuse contre Nico Hülkenberg. Est-ce qu'il y aura une pénalité supplémentaire pour un pilote qui a déjà abandonné ou est-ce qu'il va être absous complètement? C'est à suivre. Mais sinon, ça a été un sprint entre autres marqué par les délais, un contact, une pénalité qui semble controversée, mais qui personnellement ne l'est pas, même si je la trouve soft. Une performance assez impressionnante de la part d'Oscar Piastri et entre autres de Pierre Gasly qui a bien timé son temps aussi. Alors, je crois que vraiment, on est en train de voir de plus en plus l'étendue du talent de Piastri. Verstappen, maintenant, dimanche, va devoir se battre pour gagner et permettre, entre autres, à Red Bull de rester invaincu à leurs 13 derniers Grands Prix. Alors ça va être quand même quelque chose d'assez excitant à voir dimanche. Et on reviendra là-dessus, évidemment, lors de l'après-course du Grand Prix de Belgique qui sera disponible sur toutes vos plateformes de podcast préférées. Maintenant qu'on a fait le tour du sprint en Formule E, la course vient tout juste de se terminer au moment où je viens d'enregistrer ce segment. Jake Dennis a terminé deuxième et devient officiellement le champion du monde de la saison 2023 de Formule E. Il a terminé deuxième derrière Mitch Evans, mais a profité en fait de l'abandon de Nick Cassidy, qui s'est accroché avec son propre coéquipier, Sébastien Buemi. En fait, la course au complet a été, excusez-moi le terme, un vrai clusterfuck. Ça a été le chaos total du début jusqu'à la fin. La course a débuté à midi. Il est 1h43, heure du Québec. Donc, ça a pris presque 1h45 pour compléter la course, entre autres parce qu'il y a eu l'accident un peu violent de Sacha Fenestraz. Heureusement, il va bien. Mais Jake Dennis devient officiellement champion du monde de Formule E pour la toute première fois. Il reste une course et Envision qui peut s'assurer du titre lors de la prochaine course. Donc, toutes mes félicitations à Jake Dennis qui devient champion de Formule 1 en 2023. C'est ce qui complète cet épisode de l'après-sprint du bulletin GP dans le cadre du Grand Prix de Belgique. On sera présent dimanche sur toutes vos plateformes de podcast préférées pour revenir sur la course principale. On est disponible sur Facebook, Twitter, Instagram et aussi sur Threads. Et évidemment, on vous invite à rejoindre le groupe Facebook La Monoplace, où vous pouvez discuter de tout et de rien concernant la Formule 1 et la course automobile. Et évidemment, Vous pouvez nous écouter sur toutes vos plateformes de podcast préférées, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts et autres. Alors, mon nom est Abdoussal. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. On continue toujours de rouler avec le bulletin GP et on se retrouve dimanche pour l'après-course du Grand Prix de Belgique. Sinon, jeudi pour le bilan de mi-saison 2023 de Formule 1. On continue toujours de rouler avec le bulletin GP. Faites attention à vous, prenez soin de vous et on se retrouve une prochaine fois. Salut tout le monde!